10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
C'est l'islam au présent sur Beurre FM, vous le savez, hein, le samedi, vous avez rendez-vous avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
C'est la magie de la radio, hein, ce qu'on fait aujourd'hui, puisque vous êtes à la fois à la Mecque et
en même temps sur le plateau de Beurre FM,
à Paris. Mais comment faites-vous, imam Abdelali?
Eh bien, écoute, comme une fois je l'avais raconté l'histoire des âmes qui se déplacent quand on dort. Là, je suis en train de dormir à la Mecque.
Ouais.
Et en même temps, mon âme est venue ici, à Paris.
Ah ouais, c'est ça. Il a fait de la radio.
Voilà, il est venu faire de la radio avec vous parce qu'il aime trop ses auditeurs, auditrices.
Parlez pas de vous à la troisième personne. Hein. Je veux dire, c'est Alain Delon qui présente.
Non, c'est mon âme, je parlais.
À votre âme.
Mon âme, c'est la troisième personne.
Il aime trop votre âme.
Il aime le public, les auditeurs de Beurre FM.
Bien, imam Abdelali, alors pensez à nous pendant que vous êtes avec votre groupe de pèlerins.
Inch'Allah, j'oublie pas tous mes frères dans les invocations, Inch'Allah. Et que surtout, je dirais, Allah la yahram had, Inch'Allah, min ziyara. Que personne ne soit privé de pouvoir un jour regarder de ses propres yeux la demeure de Dieu. Baytullah al-Haram, al-Ka'ba al-Musharrafa. Inch'Allah.
Alors, on démarre toutes les semaines avec un verbe coranique. Et aujourd'hui, c'est le verbe...
Asama, donc Asama qui signifie protéger dans la continuité, puisque normalement pour parler de protection on dit Hafidha. Bon, Hafidha sauf c'est ponctuel, on dit Hafidha Allah ou Fulan, il a protégé de tel ou tel mal ou tel agression, etc. Mais quand on dit Asama, c'est une protection continuelle, perpétuelle. Hein, par exemple, on dit que les prophètes sont infaillibles. On dit ma'soumin, de son singulier ma'soum. Du verbe asama, ma'soum, ouais. C'est le participe passé. C'est celui qui est protégé dans la continuité par Dieu de commettre tout péché. Donc Dieu, si même le prophète avait envie, mais il n'en a pas envie, mais bien sûr on le sait, qu'il voulait le faire, ben Dieu ne le laisserait pas le faire. C'est-à-dire, il le protégerait de commettre un péché parce que le devoir d'un prophète est d'être infaillible. Pourquoi ? Parce qu'il doit être un modèle parfait. Il doit être un modèle à suivre. Et on ne peut pas prendre comme modèle à suivre quelqu'un qui est faillible et qui commet des fautes. Sinon ça n'a pas de sens. Le modèle doit être parfait. Donc ma'soum de l'isma. Et bien sûr le verbe que nous recherchons aujourd'hui, mais ce qui nous semble le plus important, c'est son dérivé, le verbe i'tasama. I'tasama, c'est puisque quand on dit asama, c'est-à-dire que c'est Dieu qui intervient, mais là i'tasama, c'est l'action vient de la personne elle-même, c'est-à-dire c'est elle qui cherche protection auprès de quelque chose, et en particulier auprès de Dieu, pour obtenir la protection perpétuelle et l'infaillibilité auprès de Dieu. Donc son radical, c'est al-i'tisam. Qui est donc la recherche de l'infaillibilité, car toute faille succombe le croyant et au péché ou à la discorde. Dieu dit dans le Coran, par exemple, dans sourate Ali Imran, sourate 3, verset 102, il dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, et recherchez la protection tous ensemble par le câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Donc là, Allah Azza wa Jal, il nous dit que l'i'tisam billahi Azza wa Jal, c'est chercher l'unité, et à travers cette unité, Dieu nous accorde l'infaillibilité, la protection perpétuelle qu'il peut accorder à des croyants. Donc Allah Azza wa Jal, il dit dans un hadith, le prophète me dit, yadullahi ma'al jama'a, la main de Dieu, c'est-à-dire la protection divine, est avec l'assemblée, le groupe. Avec la jama'a, c'est-à-dire l'assemblée des croyants, et que finalement celui qui s'isole, ou man shadda finnar, il s'isole vers l'enfer, et que l'isolement n'est pas forcément quelque chose de noble, et au contraire détestable. Dans le Coran, dans la suite de ce même verset 102 de la sourate Ali Imran, il dit. Et rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Donc Dieu considère que le fait d'être réconcilié avec son frère, c'est un bienfait qu'Allah accorde à son frère. Puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Toujours là encore, par l'intervention divine, Allah Azza wa Jal nous a réconciliés, a fait de nous des frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, donc il parle de l'enfer, pourquoi ? Parce que nous étions divisés. C'est lui qui vous en a sauvés, ainsi Allah vous montre ses signes afin que vous soyez bien guidés. Donc toujours dans le verset 102 de Sourate Al-Imran. Donc ce verset est un appel à l'unité des croyants afin d'éviter les conflits et promouvoir le vivre ensemble dans la paix, la justice et la fraternité. Mmh. Voilà, en gros pour ce qui est le mot « i'tasama ».
Bien, mais de quelle protection parlez-vous, Imam Abdelali ?
Eh bien, on parle d'une protection divine, de l'égarement. L'égarement.
Donc ça veut dire de ne pas commettre de péché, c'est ça ?
L'égarement, c'est tout ce qui va contribuer au malheur de l'homme sur terre. Alors, ce sont ses péchés,
ouais.
Mais c'est aussi la discorde et le chaos. Quand tous les gens s'envolent les uns les autres, qu'il n'y a pas d'union, qu'il n'y a pas de fraternité, qu'il n'y a pas de solidarité, et qu'il y a l'individualisme, il y a le mépris, il y a la haine, il y a le sentiment de voilà, où les gens se détestent les uns les autres, forcément, on sème le chaos, on sème le désordre dans la société. C'est ce que Dieu ne souhaite pas,
oui,
pour les êtres humains et les croyants en particulier. Il veut pour eux qu'ils soient aimants les uns les autres, qu'ils s'aiment le prochain. Et il a même associé le polythéisme à la division. Et il a associé l'unicité à l'unité. Donc on ne peut pas parler d'unicité de Dieu, le tawhid, sans la wahda, c'est-à-dire sans l'unité du croyant avec ses frères. Dans un verset, Allah Azza wa Jal, il dit que par exemple ceux qui étaient mushrikin, qui étaient des idolâtres, eh bien ce sont ceux kanu shi'an tafarraqu wa kanu shi'an, ils se sont divisés et qu'ils ont organisé des sous-groupes et des petits groupes et des petits clans, des clans les uns les autres. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, chaque parti, chaque clan est au sein de son groupe heureux et fier de ce qu'il fait, alors qu'il est dans la l'outrance et dans l'égarement. Donc Allah Azza wa Jalla, un autre exemple qui est très fort dans l'histoire de Moïse avec son frère Aaron. Quand Sayyidina Moussa les quitte pour aller sur le mont Sinaï 40 jours et 40 nuits. Et que derrière lui, Moïse, eh bien, constate que le peuple d'Israël va se mettre à adorer une idole, le fameux veau d'or, le fameux Ijlun lahu khwar min dhahab, et que Aaron, qui est parmi eux, il aurait pu dire aux croyants, aux vrais adorateurs de Dieu, je m'innocente de ce que vous faites, je vais créer mon propre groupe, je vais créer un clan de croyants et m'isoler du reste de la communauté des croyants qui était tout le peuple d'Israël. Eh bien, il ne va rien en faire. Il va rester au sein de ces idolâtres. Il va rester au milieu d'eux. Il va refuser de dire aux croyants, venez, on va se démarquer d'eux. Il va garder l'unité. Et quand son frère Moïse va redescendre de la montagne, il va le prendre par les cheveux et par la barbe. Il dit, qu'est-ce que t'as fait, ô fils de ma mère? Et là, Aaron dira, ô fils de ma mère, toi aussi tu es le fils de ma mère, ne me prends pas par mes cheveux et par ma barbe. Là, t'as bi lihiyati wa rasi, par ma tête et par ma barbe. Ton peuple s'est égaré derrière toi quand tu es parti. Et puis, je n'ai pas voulu que les gens disent que moi, Aaron, j'étais la cause de la division du peuple de Moïse. Donc, c'est-à-dire que pour lui, le plus grave, ça n'était pas que les gens se mettent à adorer un veau d'or, mais qu'ils divisent la communauté des croyants en deux, ou en trois, ou en plusieurs parties, en plusieurs, ils divisent la communauté. Et donc, il a dit, inni khashitu, comme le dit le verset du Coran, inni khashitu an taqula qad farraqta bayna bani Israël, que tu as divisé le peuple d'Israël. Donc, il a refusé même de diviser le peuple, alors qu'il était dans son droit de le faire, puisque il s'agissait là de démarquer les croyants des mécréants. Eh bien, il a refusé, il a dit non, je préfère rester dans l'unité et puis d'arranger les choses de l'intérieur que de rester faire les choses de l'extérieur.
Alors, Imam Abdelali, quelle est l'importance de l'unité des croyants en islam?
Et pourquoi? Alors d'abord, il faut savoir que c'est Dieu qui unit les cœurs. Donc nous on y est pour rien. C'est-à-dire que quand il faut simplement invoquer Dieu pour que Dieu unisse les cœurs, il dit dans le Coran, il a uni leurs cœurs par la foi. Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pu unir leurs cœurs. Mais c'est Allah qui les a unis, car il est puissant et sage. Wa allafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakin Allah allafa bayna بينهم إنه عزيز حكيم, la sourate 8 verset 63. Donc c'est vraiment un truc très important à comprendre, c'est qu'il faut s'en remettre à Dieu pour promouvoir l'unité dans la Ummah, faire des dua, ne pas oublier de s'en remettre à Dieu et faire des invocations pour que la Ummah des croyants puisse être unifiée et même l'humanité tout entière soit solidaire, soit fraternelle, et donc de manière à propager la paix et le vivre ensemble dans l'amour et la fraternité. La deuxième chose que l'on peut retrouver comme important dans l'unité, c'est que elle permet qu'on constate qu'Allah Azza wa Jal a finalisé toutes les adorations, non pas simplement pour que on propage l'unicité de Dieu, c'est-à-dire on proclame l'unicité de Dieu et l'adoration d'un Dieu unique, mais aussi pour unifier la Umma, pour unifier les croyants. Hein, regarde, le Ramadan, s'il s'agissait de jeûner un mois dans l'année, chacun y prendrait
chacun
un mois dans l'année.
Voilà, chacun fait de son côté.
Non, Dieu il a dit, vous le faites ensemble, le même mois. Il aurait pu dire, faites la prière chacun.
L'islam au présent, avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
C'est l'islam au présent sur Beurre FM tous les samedis. Ce rendez-vous que l'imam Abdelali Mamoun vous donne de 10h à 11h. Imam Abdelali, on sait, vous êtes à la Mecque avec un groupe de pèlerins, mais vous avez tenu à enregistrer cette émission pour être là avec nous comme tous les samedis. Alors chaque samedi, vous ouvrez votre livre d'histoire pour nous présenter une ou un personnage. Et je le disais tout à l'heure, la personne que vous nous présentez aujourd'hui, c'est un personnage que Dieu n'aimait pas voir attristé.
C'est-à-dire qu'à chaque fois que cet homme-là était contrarié ou attristé ou faisait l'objet d'une quelconque agression de quiconque, même du prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, il intervenait pour le défendre. Il envoyait une révélation pour défendre cet homme-là. C'est combien il montrait l'affection et l'amour qu'il avait pour parce qu'il savait que c'était réciproque. Bien sûr, ce compagnon-là était un homme d'une sincérité extraordinaire, et dès qu'il a entendu la parole de Dieu, il a compris que c'était véritablement le Mohammed, le prophète de Dieu, et que Dieu leur avait fait un don extraordinaire en leur envoyant Mohammed alayhi sallam, et c'est pour cela que
on en parle, mais donnez-nous son nom.
Alors il s'appelle Abdullah ibn Ummi Maktoum, ce fameux compagnon réputé par son invalidité qui était la cécité. C'était un homme aveugle.
Il était aveugle, ouais.
Voilà, il était atteint de cécité, il ne voyait pas. Et il s'est converti, bien sûr, sans jamais voir le prophète, puisqu'il est resté aveugle jusqu'à la fin de sa vie. Mais il l'a touché, il est resté à côté de lui. C'était un cousin de Khadija, Ummul Mu'minin, radiyallahu anha. Il fait partie de la tribu des Bani Makhzoum. Et donc voilà, ce compagnon-là, à la Mecque, donc c'est là-bas où ça se passe, dès le début de la révélation, il entend des paroles du prophète. Alors à ce moment-là, le prophète n'est pas en train de lui réciter à lui, mais il est en train de réciter à un autre homme qui s'appelle Al-Walid ibn al-Mughira, qui était un mécréant, un homme qui était Sanadid Quraysh, qu'on appelle les grands chefs des tribus de Quraysh, qui refusaient de suivre et d'adhérer et d'embrasser l'islam, et ils étaient considérés comme les pires ennemis du prophète alayhi salatu salam. Et le prophète alayhi salatu salam, quand il a commencé à réciter le Coran à Al-Walid ibn al-Mughira, qui lui ne voulait rien entendre, et c'est au contraire Abdullah ibn Ummi Maktoum qui lui avait envie d'écouter, et qui donc entrait dans l'assistance où se trouvait le prophète avec cet homme-là. Et le prophète s'est désintéressé de Abdullah ibn Ummi Maktoum, parce que lui, pourquoi ? Il avait l'intention d'essayer de convertir Al-Walid ibn Mughira, parce que derrière Al-Walid ibn Mughira, c'était des centaines de gens, parce qu'il était chef d'une tribu, que s'il se convertissait lui, c'était des centaines de gens qui allaient se convertir. Et donc, lui, dans un souci d'essayer de convertir un maximum de gens, il s'est dit, vaut mieux que je touche la corde sensible, c'est-à-dire la tête de la tribu, et grâce à lui, je vais pouvoir convertir des centaines de gens. Voilà, par répercussion. Et donc, il a considéré comme secondaire la quête, ou la quête de la connaissance et de la vérité que venait chercher Abdullah ibn Ummi Maktoum, cet aveugle d'où les gens n'avaient aucune considération à son égard. Et donc, il s'est détourné de lui, il s'est, comme on dit, renfrôné, dans la sourate 80, Allah Azza wa Jalla le rappelle, il essaie même le nom de la sourate, le renfrogné, et il s'est détourné.
Renfrogné,
voilà, tout à fait. En arabe, on dit abassa wa tawalla, parce que l'aveugle est venu à lui. Dans le deuxième verset, Dieu dit, qui te dit peut-être cherche à se purifier, c'est-à-dire en parlant de ce Abdullah ibn Maktoum, ou se rappeler en sorte que le rappel lui profite. Quant à celui qui se comptait, qui se complaît dans sa suffisance, par sa richesse, le Walid ibn Mughira, tu vas avec empressement à sa rencontre pour essayer de le convertir, alors que t'importe qu'il ne se purifie pas. Toi, je t'ai pas demandé d'être efficace dans ton rappel, dans ton prêche de la bonne parole. Je ne te demande pas d'essayer de convertir les gens. Je te demande simplement de le transmettre avec évidence. Wa ma alayna illa al-balagh al-mubin. Dieu dans le Coran dit de le transmettre avec évidence, mais pas de chercher une stratégie pour convertir la tête du groupe pour influencer les autres. Non, il lui dit toi ton rôle c'est de prêcher la bonne parole. Et à partir du moment où cet homme-là qui est venu chercher, tu le renvoies, tu lui dis laisse-moi tranquille, j'ai d'autres chats à fouetter que de m'occuper de toi, eh bien ça, cela a provoqué un attristement et il est reparti, on va dire un petit peu mal, avec un petit peu un mal-être en lui. Et Dieu n'a pas apprécié ça. Et donc il envoie un verset du Coran pour défendre Abdullah ibn Maktoum et en provoquant cette remontrance à l'égard du prophète. Il dit, ya Rasulallah, ya Muhammad, je t'ai pas demandé d'aller t'occuper de je sais pas qui. Si quelqu'un veut chercher le rappel, tu dois t'occuper de lui, de celui qui en veut, pas de celui qui n'en veut pas. Donc à partir de là, Dieu a défendu ce compagnon Abdullah ibn Umm Maktoum. Dans une autre histoire, là encore, c'est pour cela que j'ai insisté sur la définition de ce nom qui a été donc de ce surnom, du fait que je disais que Dieu n'aimait pas le contrarier et de le voir attristé. Eh bien, un jour, ce compagnon est en train d'entendre le prophète réciter le Coran, et dans lequel il dit, dans la sourate al-Isra, le verset 72, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Celui qui est dans ce bas monde aveugle, il sera dans l'au-delà aveugle et égaré de tout chemin. Et donc il se dit, attends, moi je suis aveugle dans ce bas monde, et ça veut dire que je serai aussi aveugle dans l'au-delà, puisque Dieu confirme que celui qui est aveugle dans ce bas monde, il sera aveugle dans l'au-delà. Et il est triste, commence à pleurer, commence à se lamenter. Quel sort que j'ai, c'est une calamité. Comment j'ai déjà, je souffre de la cécité sur terre, et j'accepte le destin de Dieu sur moi, et je dois en plus dans l'au-delà subir la damnation et l'égarement, et je serai aussi aveugle dans l'au-delà. Et là, bien sûr, le prophète l'entend se plaindre et se lamenter. Et donc, Allah Azza wa Jalla, dans une autre sourate, qui est sourate al-Hajj, la sourate le pèlerinage, le verset 46, il va révéler. Et il va dire, « أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا » Pourquoi ne se répandraient-ils pas sur terre, afin qu'ils aient un cœur qui leur permette de raisonner ?« وَأَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا » Et des oreilles qui leur permettent d'écouter. « فَإِنَّهَا لَتَعْمَ الْأَبْصَارِ » Car ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs qui s'aveuglent. Walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Il le rappelle que ce ne sont pas les yeux qui seront aveuglés dans l'au-delà, ce ne sont pas ceux qui ont les yeux aveuglés dans ce bas monde qui feront l'objet d'une punition d'être damné et d'être aveuglé dans l'au-delà. Mais ce sont ceux qui ont le cœur aveuglé et non pas les yeux aveuglés. Mm-hmm. Donc il a bien fait le distinguo entre
l'aveuglement n'est pas que les yeux, en fait. Ouais.
Tout à fait. Là, c'est en l'occurrence l'aveuglement des yeux. Et donc à partir de là, il est content parce qu'il comprend que finalement l'aveugle
ça concerne pas.
Mais Dieu a voulu ajouter encore une couche. Il a voulu rajouter une couche à ce privilège, pour dire voilà, maintenant dorénavant tu seras plus jamais triste, ya Abdullah ibn Umm Maktoum, puisqu'il va lui dire ya Abdullah, eh bien sache que Jibril est venu me voir et il m'a fait part d'un privilège qu'Allah Azza wa Jalla t'a accordé. Il a dit c'est quoi? Il a dit ala tarda an takuna awwal man yara Allah yawm al-qiyamah. N'es-tu pas satisfait de savoir que le jour du jugement dernier, alors qu'il aura fait rentrer tous les croyants au paradis, tu seras toi, Abdullah ibn Umm Maktoum, l'aveugle, le premier à voir Dieu. Le premier à voir Dieu quand Dieu apparaîtra devant tous ses croyants, ses bien-aimés, fidèles. Eh bien, le premier à voir Dieu, ça sera toi. Ça sera toi qui pourras jouir de la vue de Dieu avant tous les autres. Allahu Akbar. Ce privilège qu'Allah Azza wa Jal a accordé à Abdullah ibn Umm Maktoum, sachant que même aucun délice du paradis n'est plus important que le délice de voir Dieu le jour de la résurrection.
Attendez, parlez dans votre micro, Imam Abdelali, parce que sinon on vous entend pas.
Parce que là, j'ai un problème avec mon portable, il faut que j'arrive à...
Alors attendez, parce que... que
c'est pas grave, c'est pas grave. C'est... Voilà, en gros, je voulais donc affirmer que Allah Azza wa Jal, par le fait que cet homme-là, qui était en même temps surnommé le suppléant de du prophète.
Alors, pourquoi est-ce qu'on justement on le surnommait, c'était un de ses surnoms de
suppléant. Parce que le prophète était le commandeur titulaire. Mm. C'était lui le commandeur des croyants. Mm. Ou Amir al-Mu'minin, ou Rasulullah, bien sûr, ou Rasulullah, ou le maître, le. Mais quand il s'absentait pour aller à la Hajj, pour aller faire une bataille, la bataille de Badr, la bataille de Uhud, qui le remplaçait comme émir, hein, pas simplement pour faire la prière. Il dirigeait la prière, mais en plus, il était l'émir des musulmans, c'est Abdullah ibn Umm Maktoum. Vous voyez combien
la confiance. Il y avait une confiance.
13 fois, à 13 reprises, pendant 13 batailles, où parfois il s'éloignait très loin, il a jusqu'à Najran. Donc c'était des déplacements de plusieurs mois. Hmm. Et il revenait, et c'était Abdullah ibn Umm Maktoum, à qui le prophète avait confié la gouvernance de Médine en son absence. Donc c'était le suppléant du prophète, alayhi salatu wassalam, et en même temps, c'était le muadzin. C'était le muadzin.
Je croyais que c'était Bilal, moi, le muezzin.
Eh bien, il était à la fois le second de Bilal. Il y en a qui disent non, c'était pas le second. Parce que il y a deux hadiths. Il y a deux paroles du prophète. Il y a un hadith qui dit que si vous entendez le adhan de Bilal, mangez. Et que si vous entendez le adhan de Abdullah ibn Maktoum, interrompez le fait de manger. Pendant le ramadan, il y avait deux adhans, et même en dehors du ramadan, jusqu'à maintenant dans beaucoup de pays, hein, il y a un premier adhan au dernier tiers de la nuit pour réveiller ceux qui veulent prier pendant la prière de la nuit. Il y a un premier adhan, en tout cas à la Mecque, déjà c'est une sunna, ils le font tous les jours, toutes les nuits du moins. Vous avez un premier adhan qui est une heure avant le fajr, et ensuite vous avez le deuxième adhan. Eh bien le premier adhan c'était Bilal, et le deuxième adhan, c'était Abdullah ibn Umm Maktoum dans une version. Mais dans une autre version, c'est l'inverse. Où c'est Abdullah ibn Umm Maktoum qui est celui qui fait le adhan en premier, et Bilal qui fait le adhan en second. Donc le second qui est le vrai adhan. Puisque le premier, ce n'est pas pour faire la prière obligatoire. C'est pas pour déclencher le fajr, mais pour déclencher le sahur. C'est-à-dire le moment de la collation.
Voilà, où il faut aller manger
ou faire des prières. Voilà, sahar, wa bil ashar, hum yastaghfirun. Hein, les gens se prient et implorent le pardon de Dieu lors de ce dernier tiers de la nuit, qui est le dernier tiers où Dieu descend dans le ciel de ce bas monde et interpelle les croyants en leur disant, Allah amin mustaghfirin fa'aghfir Allah. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui veut me demander pardon, que je lui pardonne? Et ainsi de suite. Le hadith est long, mais ce que je voudrais m'arrêter, c'est que il y avait le adhan, le premier qui était fait par Bilal ou Abdullah ibn Maktoum, et le second, quand l'un n'avait pas fait, c'était l'autre qui le faisait. Donc probablement, puisqu'il y a les deux versions, peut-être qu'ils alternaient. Peut-être qu'une fois c'était Bilal qui faisait le premier adhan et Abdullah ibn Maktoum qui faisait le deuxième adhan, c'était le vrai, celui de l'Fajr, et inversement d'autres jours. Voilà, donc il était le second, on va dire, muadhin de la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, notamment quand Bilal a décidé de partir après la mort du prophète, puisque après la mort du prophète, Bilal est parti. Il a quitté Médine, il a dit « moi je veux plus faire l'adhan alors que le prophète n'est pas là ». Il est parti à Damas, donc en Syrie, avec les musulmans conquérants qui sont venus partir conquérir le Bilad al-Sham, donc le Levant. Et qui c'est derrière lui qui est resté faire l'adhan? C'est Abdullah ibn Umm Maktoum, bien sûr, qui était le muadhin des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Lui-même va mourir puisqu'il va avoir aussi lui aussi l'envie d'aller faire la fameuse lutte sur le sentier de Dieu, et lors d'une grande bataille qui s'appelle la bataille de l'Qadisiyya, c'est la bataille contre les Perses, hein, qui persécutaient leur population et qui leur imposaient le fait d'adorer le soleil et le feu. Et bien pour libérer ce peuple, les musulmans sont partis combattre les Perses, et le roi notamment ce qu'on appelle Kisra, hein, Azdajird, Kisra Azdajird, et donc à partir de là, ils ont fait une grande bataille, donc plus de 150 000 hommes avec 30 éléphants contre seulement 30 000 compagnons du prophète, et qui ont gagné la bataille. Mais parmi eux, hein, il y avait celui qui tenait l'étendard, qui tenait le fameux drapeau des musulmans, de l'armée musulmane.
C'est lui?
Abdullah ibn Umm Maktoum, oui, effectivement. Et il a fait l'objet d'une cible.
C'est-à-dire qu'il est tué en tenant le drapeau, c'est ça?
Et seulement, puisqu'il ne voit rien. Donc il, son seul rôle, c'est de tenir le drapeau dans les mains. Et, mais comme il ne peut pas voir l'ennemi ni combattre contre ce dernier, eh bien, il va subir des attaques et être, il va mourir.
Et donc il meurt en tenant l'étendard de l'armée musulmane.
Voilà, tout à fait. Et donc il meurt martyr sur le champ de bataille. Lui aussi, parce que c'est ce qu'il souhaitait. Il voulait lui aussi avoir le privilège de pouvoir mourir pour, sur le sentier de Dieu et pour la cause de Dieu.
Bien, un nouveau personnage que l'imam Mamoun racontait pour vous, dont il dévoilait la vie. Un autre personnage la semaine prochaine, dans un instant, Imam Abdelali Mamoun, vous répondez aux questions des auditeurs de Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. L'islam au présent avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
C'est l'islam au présent sur Beurre FM tous les samedis jusqu'à 11h. Imam Abdelali Mamoun sera avec nous samedi prochain sur ce plateau. On répond aux questions des auditeurs. Une question qui concerne justement la Omra. Combien de Omra est-ce qu'on peut faire pendant la Omra?
Alors, il y a beaucoup de savants qui limitent le nombre de Umrah à une seule. C'est-à-dire que quand vous partez pour faire une Umrah, vous faites une Umrah et puis c'est tout. Et puis le reste des rites que vous pouvez accomplir là-bas, c'est le fait de multiplier la circumambulation autour de la Kaaba. C'est ce qu'on appelle en arabe le tawaf, c'est-à-dire le fait de tourner autour de la Kaaba par 7 fois, toujours 7 fois, et de rak'at, chaque fois 7 fois de rak'at, on le multiplie. D'autres savants ont dit que pour ceux qui habitent très loin, donc qui n'ont pas l'opportunité, la chance de pouvoir venir souvent à la Mecque, et que c'est là probablement la seule fois ou les rares fois où est-ce qu'il pourra venir à la Mecque, eh bien certains savants ont considéré qu'ils pouvaient réaccomplir une seconde fois la Umra, et pour la plupart du temps ils le font pour une tierce personne. Par exemple, ils vont faire une sadaqa pour leurs parents décédés ou des grands-parents décédés. Et donc, ils vont faire ce qu'on appelle un hajj badel, une umra badel, c'est-à-dire une umra par délégation. Ce que je fais moi souvent, ou ce que moi j'organise souvent quand j'organise le hajj ou la umra, j'organise des hajj par délégation pour ceux qui n'ont jamais pu le faire de leur vivant.
Mais c'est pas la même chose, la umra badel et le hajj badel.
Le hajj badel, c'est le hajj.
Vaut mieux faire le hajj finalement.
Le hajj badel, oui. C'est mieux que la umra badel. Voilà. Et celui qui ne peut faire que la umra badel, c'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que de ne rien faire. Donc faire une umra badel, que je signale comme étant une manière d'effacer les péchés de la personne, puisque le prophète dit al-umratu ila al-umra kaffaratun lima baynahuma. Une umra entre une umra et une umra, et la umra efface tous les péchés. Donc c'est une manière d'effacer les péchés. La personne qui vient se rencontrer Dieu avec des péchés complètement absous et effacés, c'est quand même mieux que celui qui se retrouve avec plein de péchés devant Dieu à rendre compte des fautes qu'il a commis devant Dieu. Donc c'est important de faire des umrah pour effacer ses péchés et ses fautes et d'être pardonné des erreurs qu'on a pu commettre dans sa vie. Et de faire pardonner les erreurs d'une personne proche que l'on aime et à qui on voudrait qu'il rencontre son Seigneur avec les péchés pardonnés. Ainsi, moi, mon père a commis des fautes et je vais faire une umrah pour lui, pour que Dieu efface ses péchés, ou mon grand-père, ou ma tante, ou n'importe qui, ou une personne, une tierce personne que je connais pas. Il y a même des gens qui font des umrah pour des ulama, des savants qu'ils connaissent même pas, mais qui sont morts depuis longtemps, et qui font des umrah pour eux, pour l'imam Malik, pour des savants. C'est possible, on a le droit de faire ça. Mais, surtout ne pas oublier que Allah ne va pas te priver de la récompense, de la même récompense qu'il va accorder. Donc c'est toujours bien de faire une umrah pour une autre personne, parce que de toute façon Dieu ne t'en privera pas la récompense. Donc tu auras toi la récompense plus la personne décédée.
Voilà. Après moi la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on a intérêt, si on peut parler d'intérêt à faire des umrah alors qu'on n'a pas fait le hajj?
Alors quand on est là-bas pour faire une umrah dans une période où c'est pas le hajj, oui. Moi j'ai que par exemple une somme de 1200 ou 1500 euros pour faire le umrah.
Là on parle d'une question budgétaire.
Voilà, budget mais aussi de temps. Par exemple si la période du hajj ne correspond pas à mon calendrier de travail, je peux pas faire le hajj, ou question de santé. Il y a des gens qui ont la capacité physique de faire une umrah mais pas de faire le hajj. Le hajj, faut savoir que c'est beaucoup plus contraignant. Par exemple il y a des gens qui se trimballent avec des machines pour respirer, toi tu peux pas trimballer ça avec Aminan, avec Arafat et Muzdalifa et tout ça, c'est très compliqué. Alors que la Umra, tu es dans un hôtel, souvent des fois un hôtel qui est proche de l'Haram, à quelques mètres de lieux saints, où
physiquement c'est plus facile à réaliser.
Bien sûr, c'est incomparable, c'est même 10 fois plus difficile. Déjà le monde qu'il y a, on a pratiquement 10 fois plus de monde pendant le Hajj que pendant la Umra. On passe de 200 000 à 2 millions, c'est quand même pas comparable. voire même plus que 2 millions.
Imam Abdelali Mamoun, une question d'une auditrice qui vous demande la position de l'islam. Je suis une femme divorcée avec 6 enfants, vous écrit-elle, 3 mineurs et 3 majeurs. Et son ex-mari ne verse aucune pension alimentaire aux enfants. Et il dit qu'il a assez donné qu'il est temps maintenant qu'il s'occupe de lui. Concrètement, quelle est la position de l'islam ?
Le prophète dit dans un hadith, kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ul. Suffit comme péché que quelqu'un ne prenne pas en charge ceux dont il a la responsabilité. Et tout parent a l'obligation, le devoir de solidarité à l'égard de ses enfants qui ne sont pas en mesure de se prendre en main.
Jusqu'à quel âge, Imam Abdelali ?
Jusqu'à qu'il puisse se prendre en main.
Bah non,
il n'y a pas d'âge.
30
il y a
ans,
pas
35 ans.
À partir du moment, imagine un enfant simple.
Si c'est Tanguy.
Philippe. Imagine un enfant simple d'esprit qui ne sait pas s'occuper de lui. Imagine quelqu'un qui n'a pas les capacités de se prendre en charge.
Mais si vous êtes avec des enfants qui sont en âge de travailler, qui ont tout pour travailler et qui travaillent pas, vous leur devez toujours cette assistance.
Tout à fait. Mais on a le devoir de les encourager à s'envoler de leurs propres ailes et de prendre leur envol vers une autonomie financière et donc les encourager à aller travailler, à chercher un appartement, se marier.
Et alors donc si on ne souscrit pas à cet engagement et à cette obligation,
c'est un péché, c'est une faute lourde. Dieu te reprochera le jour de la résurrection pourquoi tu as négligé ceux dont tu as la responsabilité parce que tu es le père. Tu ne peux pas dire, oh non, moi, je m'occupais de moi-même. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Tu as fait des enfants, tu assumes. On doit assumer ses enfants. On fait des enfants, on assume. Il ne s'agit pas simplement de profiter de sa femme. Si on ne veut pas d'enfants à ce moment-là, utilisez-moi une contraception. Et là, on n'a pas d'enfants. Mais si on veut en avoir, il faut assumer. Il faut aller jusqu'au bout.
Une question qui revient souvent, Imam Abdelali, la question sur le don d'ovocytes. Alors,
don d'ovocytes, ça veut dire c'est aller mettre dans son corps, dans son utérus, chez une femme, l'ovule d'une autre, un ovule fécondé.
L'utérus, c'est plutôt chez une femme. Enfin, Imam Abdelali.
Oui, mais je précise.
Sans vouloir.
Il y en a qui connaissent pas. D'accord. Je précise. Dans la matrice de la femme, l'utérus, l'ovule, l'ovocyte d'une autre femme. C'est-à-dire que je vais moi mélanger mes gènes. Avec un ovule d'une autre personne, avec les gènes d'une autre femme.
Pour les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants par elles-mêmes.
Voilà. Non. Mais l'enfant, quand il va naître, il a les gènes de qui ? De quoi ? On ne sait pas qui est sa mère. Ça veut dire que demain, si ce même ovocyte de la même mère rencontre qui est un garçon, rencontre une fille, qui finalement est sa sœur, parce qu'ils ne savent même pas qu'ils sont frères et sœurs, puisque ils ont eu la même mère d'une banque d'ovocytes ou qui a été préservée et ils se marient, là on provoque l'inceste involontairement. La filiation des parents est essentielle, la filiation biologique des parents en islam est quelque chose de fondamental. D'accord. Qui doit être
alors,
préservé.
De quoi vous servez-vous pour arbitrer ça, parce qu'effectivement le don d'ovocytes
la visée de la loi, pourquoi
j'ai
interdit l'adultère
qui est plutôt récente,
pourquoi la fornication est interdite, parce qu'on ne veut pas disperser les semences des hommes et celles des femmes, pour justement faire en sorte que chacun sache ses origines et ses racines, et ses vraies racines. Imagine-toi, tu sais pas qui est ton père, qui est ta mère. Déjà, toi, tu grandis comment ? Tu es complètement déraciné, tu n'as pas de racines, donc déjà, tu grandis avec un handicap énorme, psychologique, qui est énorme. Tu sais pas qui tu es, tu ne connais pas ni ton père, ni ta mère, c'est quand même grave. Donc, on ne doit pas encourager ça. Chacun a le droit d'avoir un passé, une histoire, des ancêtres à qui il va se référer, et le prophète considérait comme très grave, il parlait même de damnation pour celui qui se prétendait d'un autre père que le sien.
Alors, donc, en définitive, c'est illicite.
C'est un péché, bien sûr, c'est pas autorisé. Le don d'ovocytes, même les mères porteuses, tout ça, même c'est interdit par la loi, donc heureusement. Puisque.
Je dis ça parce que c'est un débat d'actualité.
La maman, imaginons une.
Il n'y a pas de dérogation.
Une femme, elle peut pas porter son enfant. Elle va donner son ovule, elle peut ovuler, mais elle peut pas le garder. Parce qu'à chaque fois qu'elle le garde, ça provoque une
couche.
Voilà. Donc elle va donner à une autre femme, qui elle était stérile. Inversement, elle pouvait porter un enfant, mais n'avait pas l'ovule.
Qui peut porter l'enfant.
Elle va porter l'enfant. Au moment de la naissance, l'enfant, il est le fils de qui ? La loi française, par exemple, va dire c'est la mère qui a accouché l'enfant qui est la mère. Sauf qu'au niveau génétique, au niveau biologique, l'enfant qui vient de naître porte les gènes de la maman propriétaire de l'ovocyte. Que finalement, la loi qui dit que cette femme-là qui va avoir d'autres enfants, Ben, si demain, elle donne la vie à d'autres enfants, ils seront frères et sœurs. Et ben, et alors que la loi dira non, ce ne sont pas frères et sœurs, puisque la mère, c'est celle qui a donné naissance, qui est la mère, et pas l'autre. Donc, ils ne sont pas frères et sœurs. Donc, on disperse la filiation, on disperse les origines et les parents des êtres humains, et c'est ce qui est bien sûr proscrit en islam.
Alors, autre question, ma mère ne souhaite plus m'adresser la parole, elle m'a toujours détesté. Elle préfère mon frère qui la comble de cadeaux car il fait du trafic de stupéfiants, Imam Abdelali. Moi, je ne peux pas lui faire autant de cadeaux. Comment est-ce que je peux me comporter par rapport à cette situation ?
Eh bien, être patient, c'est une épreuve que je dis à cette sœur de prendre sur elle et de continuer à consolider ses liens avec cette mère comme elle le peut. Et si sa mère lui rend mal, bah tant pis. C'est quand même elle qui lui a donné la vie. Elle lui doit tout. Donc à partir de là, la fille doit se comporter noblement avec sa mère et ne pas rendre coup pour coup. Puisque tu veux pas me voir, bah moi aussi je peux pas te voir. Non. Mais si ta mère ne peut pas te voir, tu dois continuer à vouloir la voir et à continuer à l'appeler, à lui demander des nouvelles et lui envoyer des cadeaux dans la mesure bien sûr du possible. Pour ce qui est du frère, eh bien lui faire un rappel, essayer de lui dire que tu vas finir en prison. Cette histoire, ça va mal finir. Et d'abord, faut savoir que tu t'enrichis sur le dos de la santé et de la vie des autres, puisque la drogue, on sait ce que c'est aujourd'hui, c'est un poison qui tue, et plus que la cigarette. Donc, il faut faire attention. Comment on doit gagner sa vie ? On peut pas le faire au détriment de la vie, de la santé des autres. La drogue étant quelque chose de dangereux, si ça a été interdit par la loi, c'est pas pour rien. Même en islam, c'est interdit. Donc, on ne peut pas continuer à s'enrichir en pratiquant ce genre de choses au détriment de... Parce que déjà, je veux dire, cette personne qui vend la drogue, est-ce qu'elle aimerait qu'une personne, un dealer, donne ça à son fils ou à sa fille ? Il n'aimerait pas, il ne veut pas que lui subisse ça dans sa famille ou sur lui-même. Alors pourquoi il accepte qu'on le fasse pour les autres ? C'est ça que je ne comprends pas, qui est injuste. Et je voudrais réveiller ces gens-là.
La question, c'est de savoir si, bon, voilà, il faut fermer les yeux ou pas, quoi.
On ne doit pas, la maman ne doit pas accepter ces cadeaux puisqu'elle sait que son fils elle gagne ça de manière illicite et donc en
et là,
faisant ça
sans savoir, vous savez comment ça
exprès,
se passe,
ben,
comment, vous savez comment
ben,
ça se passe.
C'est de l'argent haram, c'est un gain haram qui ne fait que enrichir son corps de haram et qui empêche les invocations d'être exaucées. Ça il faut le savoir. Que quelqu'un qui mange le haram, ses péchés ne sont pas exaucés.
Très rapidement pour terminer, on parlait tout à l'heure de la Omra, une dernière question d'une auditrice qui vous demande, parce qu'elle prévoit de faire une Omra, elle vous précise qu'elle n'a pas de mahram et elle vous dit qu'elle a 42 ans. Alors est-ce qu'elle peut, oui ou non, partir à la Omra ?
Alors, vous avez dit le verbe, le terme un peu manière erronée. Alors, on dit mahram, hein, mahram, ce qui veut dire membre masculin de la famille.
Mais vous aviez compris de quoi je parlais, Imam Adali.
Oui, mais c'était
rassurez-moi.
Mahram, si je suis sûr que tu arrives à le dire, mahram.
Sauf que vous m'affichez.
Mahram. Voilà. Alors, mahram, c'est la condition sine qua non pour obtenir un visa pour toute femme qui a moins de 45 ans. Toute femme qui a moins de 45 ans ne peut pas obtenir un visa de.
J'aurais dit un tuteur. La prochaine fois, je dirais un tuteur.
Non, mais tuteur, c'est un peu... Non, c'est pas vraiment un tuteur. Non, c'est pas le tuteur. C'est pas le wali. Wali, c'est pour se marier, c'est pour... voilà. Alors que là, il suffit simplement d'avoir un membre de sa famille. Même son fils, qui a au moins 21 ans, si je suis une femme de 42 ans, par exemple, et j'ai un fils de 21 ans, eh bien, je peux partir à la Omra avec lui, avec mon fils. C'est bon. À partir du moment où l'homme masculin qui m'accompagne a plus de 21 ans, attention, c'est pas la loi musulmane, ça. Ça, c'est la réglementation saoudienne.
Oui.
Voilà. Des autorités
là,
consulaires saoudiennes.
Ouais.
Voilà. Et il s'agit pas de la loi musulmane. La loi musulmane, pour moi, toute personne, toute femme, à partir du moment où elle est en état de sécurité, dans son honneur et dans sa vie, a le droit de se déplacer où qu'elle veut sur la planète Terre, mais à condition qu'elle ne prenne pas de risques. Pour son honneur et pour c'est pour cela que dans le hadith qui dit qu'une femme qui croit en Dieu et au jugement dernier ne peut pas voyager sans mahram. Oui, bien sûr, parce que sortir de l'agglomération mécoise ou médinoise, c'est se retrouver dans des zones de non-droit où il y a des brigands, des violeurs, des voleurs, des assassins. Donc et pour une femme de voyager seule, c'était dangereux pour elle. Donc le prophète a voulu protéger ces femmes-là parce qu'il y avait un environnement. Mais aujourd'hui, où que vous soyez, il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a le SAMU, il y a les pompiers, il y a tout. Où est-ce qu'il est le problème ?
C'est safe.
Mais attention, il y a certains pays où il n'y a pas cette sécurité-là. Donc effectivement, la règle reste de vigueur à partir du moment où il s'agit de voyager vers un pays où on a les mêmes conditions qu'à l'époque du prophète.
Imam Abdelali Mamoun, on vous retrouve la semaine prochaine. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Maître Serran pour C'est tout droit. Très bon week-end. Et alors là, vous serez rentré. Donc pour tous ceux qui auraient des questions à le faire, hein, vous pouvez envoyer vos questions par SMS, par exemple, à l'imam Abdelali, ouais. Ou l'appeler sur son numéro de téléphone.
Alors le 06 29 25 35 00. 06 29 25 35 00. Je précise que c'est le début des inscriptions pour le Hajj, Inch'Allah, le grand Hajj du mois d'août.
Ouais, ouais.
Voilà, donc le 06 29 25 35 00, 06 29 25 35 00.
Départ quand cette année?
À peu près le 10 août, entre le 5
les
et le 15 août.
Les places vont être chères puisqu'effectivement c'est un mois de vacances et que pour les 3 semaines avant la rentrée, vous serez très nombreux à vouloir justement profiter de cette configuration qui est optimale pour aller accomplir le Hajj. Donc les inscriptions sont ouvertes.
Non, Inch'Allah.
Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine, Imam Abdelali.
Au plaisir, Inch'Allah.
C'était l'Islam au présent avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.